Il a été le patron de la prestigieuse BRI, il est actuellement directeur de la brigade de protection des mineurs de Paris. Il, c'est Christophe Molmy. Bonjour, je vous laisse vous installer tranquillement. Vous publiez un nouveau roman, son titre « Comme un papillon », c'est un roman noir qui explore toutes les facettes d'une même histoire, celle d'un violeur qui pensait qu'il ne pouvait pas tomber. Bonjour Christophe Molmy.
Bonjour.
Merci d'être avec nous, on est ravis de vous accueillir avec Laurent Valdiguier. Quatrième roman pour vous.
Cinquième.
Ah bah écoutez, bah j'ai mal fait mon travail. Ça commence bien. En fait, c'est la précision du flic. Pourquoi cette histoire ? On va venir dans le détail. Pourquoi vous avez choisi cette histoire ? On reviendra à la façon dont vous l'avez racontée après, mais comment ça vous est venu ?
Cette histoire est une fiction. Alors, en tant qu'auteur, ça m'intéressait d'écrire sur un phénomène de société. Et en particulier, ce qu'induisent les réseaux sociaux, ça a complètement bouleversé, vous le savez bien évidemment, les rapports humains. Imaginez qu'il y a 20 ans ou 30 ans, je vous ai dit que j'allais inventer une application, on allait rencontrer des femmes comme ça, ou des hommes pour les femmes.
Vous auriez rigolé.
Et vous auriez rigolé, vous auriez trouvé ça complètement fou, et ça se fait. Alors, j'ai pas de jugement là-dessus, mais ça induit parfois des mises en danger. Et puis là-dessus, évidemment, il y a eu aussi MeToo, toutes les affaires médiatiques dont vous parlez souvent, qui ont remis en question, et c'est heureux, la notion du consentement, la vision de l'homme sur la femme. Voilà, donc c'était tout ça que je voulais explorer dans ce roman.
Avant que Laurent vous pose, est-ce que vous avez écouté le plateau précédent ?
Non.
Parce que j'avais l'impression, quand Johanna parlait de la façon dont certains hommes se comportaient et se sentaient au-dessus des lois, c'est exactement ce qui arrive à ce Mathieu Escura. C'est-à-dire qu'il se sent complètement intouchable. On ne sait même pas s'il a le sentiment lui-même qu'il fait du mal. Et il y a cette espèce de vous nous remettez dans son cerveau, vous nous mettez dans la tête aussi du psychiatre, de la femme, ce qui est extrêmement intéressant.
Alors, il a raté un train, lui. Hein. Il a pas vu que la société a changé. Il continue à pas se poser de questions. Et le roman s'ouvre sur la même scène, en fait, vécue par cet homme et par une femme qu'il rencontre. Et ils vivent pas du tout la même chose, parce que lui, il vit un très bon moment, et elle est agressée, elle est violée. Et ce qui m'intéressait pour l'ouverture de ce roman, en particulier, c'est le ressenti, parce que c'est pas parce qu'une femme ne dit pas non que nécessairement elle est d'accord, et elle peut être silencieuse et être sidérée. Donc on voit ça souvent dans les enquêtes. Donc je voulais mettre ça en scène, et puis ensuite dans cette histoire, il y a une seconde histoire et une troisième dans la seconde, puisque c'est un thriller, mais ça c'est le début. Ouais.
Comment vous résumez ça?
Oui, c'est vrai que ça commence comme un roman de gare de quelqu'un qui a pas compris son époque, qui est assez content de lui, et qui... Alors ce qui m'a plu d'entrée... Parce que c'est quand même un livre de flic. C'est aussi, vous êtes un flic, vous êtes un policier. Donc, vous êtes pas juste romancier. Mais le point de départ, c'est ce toboggan. C'est-à-dire cette bascule dans la vie de quelqu'un. Alors, qu'en tant que flic, vous connaissez bien, cette garde à vue. C'est-à-dire le moment où vous voyez quelqu'un qui est en train de réaliser que, dans la minute, sa vie sera plus jamais comme avant. C'est ça que vous décrivez bien.
Plus que dans les autres romans, j'ai voulu aussi pas jouer avec le lecteur, mais lui provoquer des émotions. C'est-à-dire que tour à tour, il peut être un peu empathique pour cet homme, presque le plaindre à un moment, et puis après il est marqué d'effroi. Donc en effet, c'est cet homme, il passe dans une sorte de machine à laver et il comprend pas au début. Et en plus, il a une quête personnelle qui se greffe à la situation judiciaire.
Mais ça, vous le voyez souvent chez les gens. Indépendamment de votre
qu'on se sont pas des voyous, ouais.
Vous voyez souvent ces gens arriver dans la porte d'un commissariat ou d'une gendarmerie, et puis à la fois pas se rendre compte, et puis tout d'un coup devant vous s'effondrer, non?
C'est une machine judiciaire, ouais. En effet, puis qui la broie là en l'occurrence, mais il est pas habitué à ça, lui. Comme je dis, c'est pas un voyou, c'est un prof de fac. Il a même pas l'idée de se retrouver un jour en garde à vue. Encore une fois, il se pose pas de questions, lui, hein. Donc, ce qu'il fait est naturel.
Et puis là, sa vie s'effondre.
Et sa vie s'effondre, sa vie personnelle aussi, puisqu'il est marié. Donc, sa femme goûte assez peu ses relations extra-conjugales. Il a des enfants, il a un travail. Voilà, tout explose.
Comment vous vous êtes mis, parce que ce que je dis, ce qui m'a moins particulièrement, ce que j'ai retenu, c'est le fait de voir plusieurs facettes de la même histoire. Alors, au début, mais tout au long, on est vraiment dans la tête des protagonistes. Comment vous vous êtes mis dans la tête de la psychologue, de la femme, de la mère, comment vous êtes passé dans chaque tête, parce qu'on a l'impression parfois qu'on passe d'une tête à l'autre et que tout est très juste et tout paraît très logique, mais nous on le voit en tant que lecteur, mais comment vous vous êtes mis en tant qu'écrivain là-dedans ?
Alors parfois c'est difficile, mais c'est ça qui était aussi jouissif dans ce roman. Mmh. Le premier, c'était que j'avais écrit, Elle est où blessée, c'est un roman qui était
le
très proche.
Le premier des cinq, vous voulez dire.
Les des cinq, absolument. Il était très proche de mon métier, mmh. et j'ai voulu avec le temps m'éloigner du piquet, et là c'est vraiment fictionnel. Donc il a fallu que je fasse un effort de recherche, j'ai demandé des conseils à une psy clinicienne aussi, et j'ai passé du temps, j'ai mis plus longtemps à l'écrire, effectivement, pour me mettre dans la tête. Alors, pour un homme, se mettre dans la tête d'une femme, c'est intéressant.
Ouais. Vous avez appris des choses que vous pourriez retranscrire dans votre autre métier, pas celui d'écrivain. Est-ce qu'on dans la vie, enfin, on pourrait dire, on progresse toujours des expériences qui nous nourrissent. Est-ce que ça peut aussi vous servir dans l'autre sens?
Je sais pas. En tout cas, j'ai pris le temps de me mettre effectivement dans les bottes d'une femme. Alors en plus, ça vous a pas échappé si vous l'avez lu jusqu'au bout, c'est qu'il y a une vraie énigme. Donc,
bon, alors on va pas dire la fin parce que c'est très surprenant, on dira rien.
Surtout pas. Mais j'ai vraiment pris du soin à construire ça. Et les personnages servent ce but-là. Je pense même qu'il est utile peut-être de le relire une deuxième fois parce que moi, en le recorrigeant, je me suis rendu compte qu'il y avait des choses trappes. Voilà. Mais se mettre dans la tête d'une femme, c'est intéressant. Se mettre dans la tête d'une femme en étant un homme de plus de 50 ans aujourd'hui, c'est intéressant. Mm-hmm. Ça peut-être que d'un point de vue intime, c'était peut-être votre question, ça oblige à se poser des questions.
C'est un peu ça aussi, c'est-à-dire comment on passe effectivement quand on doit écrire coucher les pensées d'une femme dans cette époque et avec la prise de conscience générale, c'est comment soi-même on se projette quand on doit coucher sur le papier.
Oui, parce que ce qu'il faut dire, c'est qu'il n'y a pas de policier dans votre...
Ah, c'est pas un polar, c'est un roman psychologique.
Pas de mais l'autre, alors peut-être c'est votre expérience de policier aussi ça, c'est que finalement, dans votre livre, personne n'est ni tout blanc ni tout noir. Il y a un espèce de mélange. Au fond, il y a
je l'ai noté.
Ils sont tous un peu sympathiques et puis pas sympathiques. Enfin, il y a un mélange de tout. Ça, c'est votre vie de policier qui vous fait dire ça sur la nature humaine.
Non, mais en tant qu'auteur, voilà, moi, je veux rester sur le fil. Je donne pas de leçons. Je veux pas influencer qui que ce soit. J'ai une lectrice l'autre jour qui m'a dit j'ai été gêné, j'ai été embêté parce que par moments j'avais de l'empathie pour ce personnage. C'est intéressant quand on est auteur d'entendre ça. Oui. Donc non, je voulais rester très neutre moi et laisser le lecteur à son sentiment par rapport à ces personnages qui sont à la fois complexes et très banaux en fait. Quoi.
Et alors, est-ce que c'est aussi votre expérience de policier, des enquêtes? J'essaie de vous amener à ça pour que vous nous expliquiez un peu comment le chaudron du commissariat, l'endroit où nous on n'est jamais. Mais c'est vrai que vous donnez quand même une importance au second rôle. C'est un peu comme si finalement dans une enquête policière, on sait bien tout compte, tout le témoignage. Vous avez un gardien d'immeuble qui est pas sympathique du tout, qui prend les gens en photo à leur insu, etc. Sa femme l'a quitté, etc. Mais lui aussi il compte dans votre livre. Est-ce que c'est ça aussi, cette importance de tout le monde?
Oui, d'une part, je veux pas être manichéen, comme vous l'avez souligné, et puis être le plus réaliste possible. Et être réaliste, ça veut dire aussi faire voir des pans d'une enquête criminelle. Mais aussi des personnages qui troublent un peu l'histoire aussi, hein, qui complexifient un peu l'intrigue. Mais tous ces petits personnages construisent aussi l'histoire et donnent de la chair à cette affaire.
Je vais absolument pas évidemment révéler la fin que nos téléspectateurs découvriront. Mais est-ce que vous avez envisagé, et peut-être qu'ils comprendront la question s'ils le lisent, mais est-ce que vous avez envisagé une autre fin? Est-ce qu'il y avait d'autres possibilités que celles que vous avez écrites et que vous avez publiées?
Alors c'est intéressant, mais oui, en fait, c'était pas la fin initiale.
D'accord.
Mais un roman, quand vous l'écrivez, vous avez un synopsis, hein, mais il vit aussi. Les personnages finissent par vivre, vous dépassez parfois, et l'histoire mute, et elle a légèrement muté à la fin. Oui.
D'accord, on verra si les téléspectateurs reviennent vers nous en disant « Tiens, j'avais imaginé autre chose ».
Le juge Alfred, qui fait aussi des livres, il dit qu'il commence, et puis il sait pas comment ça va se terminer. Vous saviez
non.
Au début?
Non. Oui, non, moi j'ai besoin, encore une fois, d'un synopsis. D'abord, il me faut du temps pour écrire, puis c'est pas mon occupation principale. Donc il me faut un guide de façon à pas me perdre. Et il y a des auteurs effectivement qui écrivent un peu à l'aveugle. Il y a deux méthodes, mais ça j'ai un peu de mal moi.
Je ne vous mets pas à la retraite, mais ce sera ma dernière question. Vous êtes encore flic, un poste très 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 important et très compliqué. Est-ce qu'à un moment vous vous dites le jour où ça s'arrête, je ne ferai plus qu'écrire, ou est-ce que c'est les deux en même temps et c'est ce qui vous plaît?
Ah bah de toute façon pour l'instant la question se pose pas.
Exactement.
C'est les deux en même temps. Ouais. À la rigueur je peux arrêter d'écrire mais pas mon métier mais pour la suite oui bah si ça continue et que il y a des lecteurs au rendez-vous je serais ravi de continuer à écrire bien sûr.
Comme un papillon Christophe Maumy, merci d'avoir été avec nous.
Merci à vous
pour évoquer
merci beaucoup
ce roman pas sur cinquième roman extrêmement passionnant. Merci beaucoup Laurent, c'est un plaisir.